Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie chapitre 13. J'ai dit, qu'est-ce que je peux apporter dans cette église où il y a tellement de gens qui prêchent et tellement de choses qui sont tellement bien faites, et je vois tous ceux qui servent, c'est une gloire. Vous savez, ça aurait été plus facile pour nous de rester ici, hein. On est parti il y a 10 ans, déjà ça fait 10 ans, ça aurait été plus facile de rester ici, plus agréable, j'aurais pu prendre ma retraite, j'avais déjà 63 ans. Hein, à l'époque on pouvait, maintenant on ne sait plus, mais non, la retraite c'est là-haut. Néhémie chapitre 13. Pour vous situer, c'est le fruit un peu de mon culte personnel, ici dans Néhémie. J'ai relu dernièrement Esdras et Néhémie. Et c'est Esdras, c'est cet homme qui a reçu les moyens de reconstruire le temple de Jérusalem. Il l'a fait dans la difficulté, mais avec l'aide du Seigneur, ils ont reconstruit le temple. On aurait pu dire, ah, c'est merveilleux. Le temple est restauré, le temple est reconstruit, et le peuple a commencé à de nouveau louer le Seigneur là sur le mont Sion. Mais Dieu n'avait pas fini. Et Dieu a envoyé ensuite un second homme, Néhémie. Néhémie qui est venu pour construire, reconstruire, rélever la muraille autour de Jérusalem. Et ça aussi, c'était le plan de Dieu. Et Dieu a agi dans le cœur des empereurs de l'époque pour financer tout ce travail, parce que c'était important. Et même juste là, il y a une leçon pour nous. Hein, un jour, vous avez compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. L'Esprit de Dieu a agi dans votre cœur. Vous avez vu ce que vous étiez aux yeux de Dieu, pécheur, mais aimé. Et vous avez été attiré à lui. Vous avez répondu à son appel. Vous avez dit, je suis un pécheur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je veux être à toi. Je veux cette vie nouvelle. Je veux le pardon des péchés. Je veux être réconcilié à mon Dieu. Je veux avoir la paix avec Dieu. Et puis le Saint-Esprit m'a apporté la paix de Dieu dans le cœur. Et là, je suis, et vous avez dit, voilà, le Saint-Esprit est venu dans notre cœur, et ensuite il me dit, tu sais, maintenant ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'était prévu depuis toujours, mais là, il a pu établir un temple dans notre corps. Et nous louons le Seigneur, et nous sommes reconnaissants que le Seigneur a établi résidence en nous. Déjà comme ça, c'est difficile de rester fidèle au Seigneur, mais avec sa présence en nous et son Esprit qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, son Esprit qui nous aide à crier « Abba, Père, j'ai besoin de toi, rappelle-moi ton amour ». Rassure-moi que tu ne m'as pas oublié. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à le faire. Et nous avons le droit de le faire. Nous sommes même encouragés de le faire. Le temple, oui, alléluia, il y a un temple. Mais vous savez, Néhémie a dû construire une muraille autour. Et avez-vous élevé une muraille autour de votre vie pour vous protéger? Et l'ennemi est toujours là, ça nous a été rappelé tout à l'heure. L'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant. Avez-vous élevé une muraille, une protection, un rempart contre cet ennemi? La pression est grande de l'extérieur. Les influences sont là, les tentations sont là. Tout est là pour essayer de nous envahir, pour nous détourner de notre chemin, de nous faire détourner notre regard de celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il a élevé la muraille. Il a remis les portes. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce chapitre 13, oui, il y avait le temple. Oui, il y avait la muraille. Mais ils ont oublié de fermer les portes. Il y a eu de la négligence. Et il est important pour nous d'être rappelés de cela. De dire, mais je dois être vigilant pour empêcher que le monde s'infiltre dans ma vie. Et il est possible pour un enfant de Dieu de se laisser infiltrer par le monde et petit à petit, sans qu'il se rende compte, eh bien, il se retrouve en train de faire ce qu'il faisait avant de connaître le Seigneur. Et il se demande comment c'est arrivé. Ben, ça n'arrive pas en une nuit. C'est le résultat d'une négligence de sa relation avec le Seigneur. Ici, Néhémie, dans ce chapitre 13, eh bien, il va relever 4 problèmes. Il s'était absenté. Et là, il revient. Et il trouve que pendant son absence, des choses se sont passées. Pourtant, comme nous le voyons au chapitre 9, verset 38, eh bien, ce peuple s'était engagé, ils avaient lu la parole de Dieu, ils avaient vu ce qui était nécessaire, et au verset 38, ils nous disent, « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, et nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites, nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. » Il y avait un moment, ils ont lu la parole, ils ont vu tout ce qui était nécessaire, et ils ont dit, nous voulons être fidèles. Bon, ils avaient dit ça à Moïse aussi. Ça ne suffit pas de dire, un jour, j'ai dit au Seigneur, je consacre ma vie. Ça ne suffit pas de dire, un jour, Seigneur, je veux te suivre dorénavant. Mais c'est qu'il faut l'entretenir. Ils ont dit, mais on avait signé ce document devant Dieu, on l'a scellé, on l'a fait dans la prière et le jeûne. C'était sérieux. Mais là, quelques années plus tard, à cause de la négligence, eh bien, la ville de Jérusalem, eh bien, elle était triste pour Néhémie. Vous savez, pour ceux qui sont au Seigneur, vous avez reçu Jésus-Christ dans le Seigneur. Vous avez même été obéissant jusqu'aux eaux du baptême. Et par ce baptême, vous avez dit, Seigneur, maintenant, la vie ancienne s'est passée. Maintenant, je vis pour toi. J'ai fait la déclaration devant tous. J'ai fait ce choix. Mais la négligence. Et ça peut arriver au n'importe lequel d'entre nous, si nous ne sommes pas vigilants. Dans ce chapitre 13 de Néhémie, dans les 9 premiers versets, nous voyons que le temple est infiltré par l'ennemi. Dans les versets 10 à 14, eh bien, nous voyons que l'entretien du temple est négligé. Les versets 15 à 22, nous voyons que le jour réservé à l'adoration est négligé. Et les versets 23 à 31, nous voyons que la famille n'est pas préservée. Elle a été négligée aussi. Quatre problèmes. Et pour lesquels nous devons encore aujourd'hui rester vigilants et préservés. Sinon, tout ce qui a existé, toutes les belles choses qui ont pu se faire et tout ce qui me vient à l'esprit pendant que je suis là, de ce que le Seigneur a fait pour vous, eh bien, ça peut être perdu. Et nous avons besoin d'entretenir. Premièrement, le temple est infiltré. Nous voyons le chapitre 13, ça commence par « Dans ce temps ». On lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais Dieu changea la malédiction en bénédiction. Ce peuple, les Ammonites et Moabites, c'était les descendants de Lot, hein, par inceste. Et Lot avait fait un choix, il était parti vers Sodome et Gomorre. Sa descendance s'est égarée, au point que, même si c'était de la famille, ils ne les ont pas reçus. Même pas parce que c'était, pas au nom de Dieu, mais même pas parce que c'était de la même famille. Et Dieu a dit, ils ont fait un choix, ils ne peuvent pas venir en tant que nation. Mais, même si la nation ne peut pas venir, les individus peuvent venir. Aucun individu n'a la porte fermée. Hein. Ruth, la Moabite, elle est dans la lignée de Jésus-Christ. Hein. Vous voyez, peut-être que vous êtes origine d'une religion qui ne permet pas d'avoir accès à Dieu. Votre religion vous empêche là où vous étiez. Et les représentants de ces religions ne peuvent pas venir prendre la parole ici. Ils n'ont pas le droit. Mais des individus qui viennent de ces différentes religions, de ces différents mouvements, peu importe, mais en tant qu'individu, peuvent venir toujours à la croix de Christ et recevoir le pardon de leurs péchés et entrer dans la famille de Dieu et pour toujours, parce que Dieu a tellement bien fait les choses. Ce Néhémie, il arrive à Jérusalem et qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Eh bien, il nous dit au verset 4... Le sacrificateur Éliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant des offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, le blé, la dîme du blé, du moût et de l'huile, et ce qui était ordonné pour les lévites, et les chantres, les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Quelque part, eh bien, il y a eu de la négligence. Tout d'un coup, ces salles qui étaient réservées pour recevoir la dîme du peuple, eh bien, il n'y avait plus cela. Et le souverain sacrificateur va aimer, parce qu'il est lié par mariage maintenant à Tobija. Tobija qui est Moabite, il est lié par mariage à Tobija. Tobija, si vous lisez au début du chapitre 2 de Néhémie, eh bien, il faisait partie des ennemis qui s'opposaient à la reconstruction de la muraille. L'ennemi, maintenant, il est pas seulement à l'intérieur de la muraille, mais il a des chambres dans le temple. Et on ne peut plus continuer la célébration et l'adoration de Dieu. Pourquoi ? Parce que ces grandes salles sont occupées, et donc il n'y a plus rien pour les lévites, pour les prêtres, et donc finalement quand Néhémie va arriver là, ben, les prêtres ne seront plus là, parce qu'il n'y aura plus ces dîmes offrandes. Et quelque part, il n'y a pas eu séparation. Le souverain sacrificateur, lui qui devait être l'exemple, eh bien lui s'est lié par mariage avec quelqu'un qui était un ennemi, et qui était en train de... d'habiter. Oh, si vous lisez les détails, je ne vais pas les lire, hein, mais Néhémie, quand il a vu cela... Il a mis et Tobija dehors, et tout ce qui était à lui, il a tout jeté. Vous savez, si vous avez eu de l'infiltration dans votre cœur, des choses qui ne conviennent pas à Dieu, des choses duquelles Dieu vous a libéré, il vous a protégé, et puis petit à petit, sans vous rendre compte, ça s'est réinstallé. Eh bien, faites comme Néhémie. Lui, il n'a pas été gentil, il a éjecté, comme on dit, hein, les jeunes disent. Hein, il a tout jeté dehors. Il a libéré l'espace. Pourquoi? Bien, quand il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, et je vous le lis, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voilà ce que lui désire. Il aspire à cela. Il dit, je veux un temple qui soit réservé pour moi. Je ne partage avec personne d'autre. Je suis le seul qui habite dans ce temple et je veux pouvoir circuler et être à l'aise dans ce temple. Dieu dans le temple, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans votre corps. Et il ne veut pas d'éléments étrangers. Si vous avez un placard avec un cadavre, videz-le. Il doit avoir accès à chaque placard de votre vie. Il doit avoir accès à chaque pièce de votre vie, chaque aspect, chaque dimension, du grenier jusqu'au sous-sol. Il doit pouvoir circuler librement. Hein, on ne dit pas au Saint-Esprit, écoute, je te respecte tellement, oh, je suis tellement content que tu sois là, écoute, mets-toi dans le salon là, voilà un beau fauteuil pour toi, tu restes là, et quand j'ai besoin de toi, je saurai où te trouver. Reste là, et puis chante à la gloire de Dieu, c'est très bien, j'aime bien de temps en temps d'entendre ça, voilà, c'est très bien. Non, c'est lui qui habite dans la maison, c'est chez lui. Et donc, tout élément étranger, tout élément qui ne doit pas être là dans ma vie, dans mes habitudes, dans mes pratiques, dans mes passions, tout ce qui ne convient pas, tout ce que j'ai laissé une fois pour le Seigneur, eh bien, je dois m'en défaire. C'est si facilement infiltré. Pourquoi? Oui, peut-être qu'on a mis une muraille, mais les portes ne sont pas fermées. Et ces choses pénètrent. Les tentations sont là, constamment. Le temple de Dieu est infiltré. Votre vie, vous savez, il n'a pas dit, il a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit votre cœur. Hein? Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que c'est seulement le cœur. Mon cœur, Seigneur, il est tout entier à toi. Non, il a dit je veux tout le corps. Le corps est à moi. Quand Christ est mort, il est mort pour le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça que si je meurs demain, mon âme va auprès du Seigneur, mais un jour le Seigneur va revenir chercher le corps et le ressusciter. Il a dit, j'ai payé le prix pour tout, je veux tout. Votre corps est important, Seigneur. Peut-être qu'il est plus important pour lui que pour vous. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que mes yeux sont à lui. Le Saint-Esprit doit pouvoir être à l'aise avec ce que les yeux voient. Mes oreilles sont à lui. Il faut qu'il soit à l'aise avec ce qui pénètre par l'ouïe. Il veut que mes pieds soient à lui, parce que je ne veux pas l'emmener là où il ne veut pas aller. Il faut que mes mains soient à lui, pour que je puisse servir. David n'a pas pu construire le temple parce qu'il y avait du sang sur ses mains. C'est important, les mains. Et les mains doivent être pures. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez aucune partie être infiltrée par le monde. C'est comme le canard. Vous jetez le canard dans l'eau, vous le sortez, il est toujours sec. Eh bien, nous, on peut être dans le monde, on circule dans le monde, mais on n'est pas affecté. Soyons vigilants. Le canard, pour rester sec, il entretient son plumage tout le temps. Sinon, il ne serait pas sec. Nous avons besoin d'entretien. Deuxièmement, Néhémie arrive et puis il trouve que le temple n'a pas été entretenu. Au verset 10, je lis, chapitre 13, Néhémie 13, verset 10, « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Et je fis des réprimandes aux magistrats. » Et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et il n'a pas attendu la réponse. On règle ça tout de suite. Si le Seigneur est en train de vous parler et il est en train de monter du doigt quelque chose dans votre vie, ne perdez pas le temps, je vais le régler tout de suite, comme Néhémie. Et il a rassemblé les Lévites, les chantres, et il a rassemblé tout le monde, tout le personnel du temple, il dit, on va assurer l'adoration de Dieu. Chacun à sa place. Et puis il a dit au peuple, commencez à ramener la part qui appartient à Dieu pour entretenir ce personnel. Et ensuite, les magistrats n'avaient pas été fidèles, donc il n'a pas remis les magistrats en place. Ils avaient le titre, mais ils n'ont pas fait le travail. Et donc au verset 13, un verset très important, il dit « Je confiais la surveillance des magasins ». Les magasins, c'était les chambres là où on avait trouvé Tobija. Hein. Il dit « Je confiais la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoins Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car, et regardez bien, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Et ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères. » Pourquoi est-ce qu'il les a choisis, eux? Pas parce qu'ils étaient plus doués que les autres, pas parce qu'ils étaient plus âgés, pas parce qu'ils avaient plus d'expérience, qu'ils appartenaient à la bonne famille. Non, parce qu'ils avaient la réputation d'être fidèles. Si vous croyez que, écoute, si jamais on me confie quelque chose, un poste dans l'église, alors là, je vais... Non. C'est les magistrats, ils avaient déjà fait ça. On confie des responsabilités à ceux qui sont fidèles, ceux qui sont déjà fidèles. Si je lis dans Tite, chapitre 1, où il parle des conditions que doivent remplir les anciens, Tite, chapitre 1, et j'ai lu les versets 5 à 9, Tite, chapitre 1, et je commence au verset 5, il dit à Tite, il dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et voilà comment les établir. Pas les plus anciens, pas ceux qui ont mémorisé le plus de versets. Il dit, « Si s'y trouve quelque homme irréprochable, donc déjà irréprochable, qui promet de l'être, quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. » Il l'est déjà. C'est-à-dire, normalement, dans l'Église, on devrait avoir... L'idéal, c'est que tous soient à la hauteur de pouvoir être des anciens. C'est ça, l'idéal. Et puis, de parmi eux, on en choisit quelques-uns, parce que tout le monde ne peut pas l'être. On devrait avoir du choix. Et c'est là où le Seigneur va bénir. Le Seigneur veut des gens qui sont déjà fidèles, des gens qui ont déjà cette réputation. Et Jésus, en passant comme ça, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes. J'ai déjà eu des gens qui ont dit, ah non, mais tout ce que tu me demandes de faire, c'est le ménage. Ah, c'est pas la peine. Et vous savez ce que je me suis dit dans la tête? Mais tu n'auras plus rien d'autre aussi. Tu ne sais pas faire le ménage? Même moi, je fais pas bien, hein, je fais pas aussi bien que Madame Barnes, mais je fais un petit peu quand même. Je fais des gestes. Après, elle passe derrière pour terminer. Mais être fidèle dans les petites choses, être fidèle dans ce qui nous est confié. On m'a donné la crèche. La crèche. Eh bien, la crèche, mais c'est un rôle important. Parce que ça permet à une maman d'être là. Et d'entendre la parole. Mais c'est un investissement extraordinaire. Et c'est la crèche qui alimente les autres classes. Hein, mais certains d'entre vous, moi je me souviens quand vous étiez dans la crèche. Ah, vous avez fait du tapage là-bas. C'était dans le coin là-bas. On vous entendait d'ici. Ah oui, mais là, vous êtes tout beau. Le Seigneur a fait une belle œuvre. Les responsabilités, le Seigneur se sert de ceux qui sont à l'œuvre. Vous lisez dans la Bible, vous trouvez toujours des gens qui sont actifs, pas des gens qui dorment, pas des gens qui sont assis. Je suis dans la prière, j'attends que le Seigneur m'appelle. Non, non, non. Marche quand tu pries. Mets-toi en marche. Et... parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. Je suis content que quand je vois de nouveaux qui prennent des responsabilités. C'est un plaisir. Moi, je pourrais être juste assis, juste là-haut et de regarder, ça me ferait un bien immense, rien que de voir la vie, hein, voir un corps qui travaille. C'est un plaisir. C'est avec beaucoup d'anticipation que mon épouse et moi, on est montés pour aujourd'hui. Parce qu'on veut voir. On veut voir avec nos yeux. Troisièmement, eh bien, des versets 15 à 17, eh bien, ce qui avait été négligé, eh bien, c'est le sabbat. Le jour du repos. Apparemment, les Juifs n'étaient pas français. Parce que les Français, ils n'oublient pas les jours de repos. En fait, on essaie d'en avoir plus. Hein. Voilà. Mais ce jour, le septième jour, vous savez que Dieu a créé Adam et Ève quel jour? Le sixième. Ça veut dire que le sabbat, c'était le premier jour de leur vie. Ils ont commencé leur vie par adorer Dieu. L'importance. Il aurait pu le créer le premier jour. Vous dites, il y avait la lumière. Non, non, le premier jour. Pour nous, c'est important, la place de l'adoration, le moment où on s'arrête pour adorer Dieu et pour le remercier pour ce qu'il a fait jusque-là. Il est important. Et si on ne prend pas ce temps... Si on néglige ce temps-là, eh bien, petit à petit, ce sera de la négligence qui va amener des éléments étrangers dans notre vie spirituelle. Ici, dans cette partie-là, regardez, je lis à partir du verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues, toutes sortes de bonnes choses. Non, c'est moi qui ajoute ça. Toutes sortes de choses. Et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais cet avertissement le jour où ils vendaient leurs denrées. Voilà où est le problème. Verset 16. Il y avait aussi des Tyriens établis dans Jérusalem, qui apportait du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendait aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé? Où était la négligence? Eh bien, il y avait des murs. Vous savez, le problème, c'est que les murs étaient là, on s'est dit, ah, il y a des murs maintenant, si jamais il y a une grande armée qui vient, qui nous attaque, nous avons des murs. Et on croit que ça, c'est le seul danger. Vous savez, il n'y en a aucun d'entre vous qui va avoir une attaque de Satan personnellement avec lui. Satan, il ne se déplace pas pour Steve. Non, mais il me prend pour qui? Oui, pour Jésus, oui. Ah oui, là, il a essayé, parce que là, il fallait tout mettre. Et plusieurs fois, il a essayé de tenter Jésus, faire trébucher Jésus. Mais pour la plupart d'entre nous, on trébuche avec un petit démon qui nous met une petite tentation là. Une petite dame qui nous fait un sourire. Quelqu'un qui nous propose du travail, qui nous donnerait les moyens d'avoir, de pouvoir se payer des choses. Puis après, on est de plus en plus absenté. Vous savez, vous savez ce que dit Salomon, il dit dans l'Ecclésiaste, il dit, ce sont les petits renards qui ravagent la vigne. Je dis, mais les renards, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec la vigne? Ils ne mangent pas ça. Eh oui, mais les petits, vous avez déjà eu un petit chiot? Hein? Il vous a démoli la maison. Hein? Votre maman a failli vous envoyer, vous et votre chien, par la fenêtre. Je me rappelle, on avait un petit chien là sur l'île Saint-Denis quand on habitait là. Et, ben, il a failli tuer le cerisier. Il n'a rien à faire avec le cerisier. Il ne mange pas ça. Oui, mais il grignote l'écorce et tout ça. Il dit, c'est les petits renards. C'est les petites choses qui pénètrent, qu'on laisse. On dit, oh non, mais ça, c'est pas grave, c'est rien. Hein? Laisser entrer un lionceau dans la maison, c'est comme un chat, c'est mignon. Seulement quand ça devient grand, hein, c'est vous qui partez. Vous savez, ce ne sont pas les grands ennemis qui détruisent Jérusalem. Ce sont ces termites spirituels qui vont détruire votre vie spirituelle. Hein, beaucoup d'entre vous viennent d'Afrique, vous savez, c'est les termites. Mais c'est en France, on a les termites, et ça, c'est pas bon pour les meubles. Hein. Je suis dans le sud, et on passe contrôler la charpente du toit, parce qu'on a abri près de la forêt où il y a de ces bêtes qui aiment manger le bois. Et on est là, rien ne se passe, tout d'un coup, le toit s'effondre. Mais c'est à cause de ces bêtes qui mangent le bois. Et on doit le traiter. Ben, vous savez, dans notre vie chrétienne aussi, il y a un entretien. Et ne vous en faites pas pour le diable. Le Seigneur s'occupe de lui. Hein? Le loup, il a peur du bâton du berger. La seule préoccupation pour la brebis, c'est de rester près du berger, c'est tout. Après, il ne risque rien. Et là, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, c'est les Tyriens. Les Tyriens, ils ne voulaient rien de mal. Ils sont gentils. Il y en a quelques-uns qui sont installés. Et eux, comme Tyr, c'est sur le bord de mer. Et bien, eux, ils amenaient du poisson frais. Et puis, le vendaient. Et puis, le poisson, ben, il faut l'acheter aujourd'hui, pas demain. Hein. Donc, on l'achète. Et donc, on a commencé à acheter. Puis, il y a du monde qui commence à se rassembler sur la place. Et donc, il y a d'autres marchands qui disent, tiens, il y a du monde, on va essayer de vendre quelque chose. Et puis, petit à petit, c'est les gens qui habitent aux alentours, qui commencent à amener des marchandises. Et tout d'un coup, je viens d'Afrique du Nord, donc c'était un souk. Hein, c'est un marché. Et le jour du sabbat aussi. Que ce soit les autres jours, c'était pas un problème, mais que ce soit le jour du sabbat. C'était parce que on avait laissé Jérusalem infiltrée par des gens qui avaient d'autres valeurs, qui avaient d'autres intérêts. Qui, pour eux, le sabbat et Dieu, ça ne représentait rien du tout. Vous savez, si vous commencez à avoir trop d'amis qui n'ont pas vos intérêts, tout doucement, vous allez vous trouver avec eux. Hein? Relisez le psaume chapitre 1 et vous verrez comment ça se passe, tout simplement. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, dans 2 Timothée, chapitre 4, il parle d'un homme qui avait été avec lui. À la fin de sa lettre à Philémon, il avait parlé de Démas. Il dit « mon compagnon de service ». Démas était dans la liste des compagnons de service de l'apôtre Paul. Il faisait partie de l'équipe de l'apôtre Paul, des gens qui partaient de ville en ville et qui prêchaient partout. Mais dans 2 Timothée, chapitre 4 et verset 10, regardez ce qu'il dit. Verset 9, il dit à Timothée, à Tite, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. » Pourquoi ? Pas parce qu'il était malade, pas parce qu'il était vieux, mais par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Comment est-ce qu'il a pu développer de l'amour pour le siècle présent alors qu'on fait partie de l'équipe de Paul ? Vous dites, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Mais il a une négligence. Pendant que Paul est en train de parler, il est en train de regarder, il dit, wow, celui-là, il a de beaux habits. Hein. Wow. Et l'autre, et puis après, on passe, on fait une étude biblique dans une maison, il dit, oh, elle est belle, cette maison. Et puis, petit à petit, les pensées s'installent. Et puis d'un coup, il dit, mais moi, avec l'apôtre Paul, moi, je ne pourrais jamais m'habiller comme ça, ni porter, avoir une maison comme ça, et ni, ah oui, non, et puis moi, je vais mourir avant l'âge, parce qu'il nous épuise. Et on commence à entretenir des pensées, d'autres valeurs. Avec ma femme et moi, on est en train de lire la biographie de Moody, hein, Dwight L. Moody, qui un jour, le cardiologue lui a dit, « Monsieur Moody, si vous continuez comme ça, vous allez mourir avant l'âge. » Et puis, il s'est dit, « Ah ben, il faudrait que je fasse attention. » Après, il revenait de l'Angleterre vers les États-Unis, et puis le bateau dans lequel il se trouvait coulait. Alors, vous savez, quand il y a des situations comme ça, on prie, hein. On prie tout facilement. Hein. Et il a commencé à prier. Il dit, et vous savez ce qu'il a dit ? Il dit, Seigneur, tu me sors d'ici, je te sers sans me retenir. Bon, les choses se sont bien passées, la preuve, il a continué. Et il a plus fait attention à son cœur, il a été à fond. Vous savez, et Dieu s'est servi de lui. Vous savez, on est là, on vivra aussi longtemps que le Seigneur a besoin de nous. Il n'y a pas de raison pour s'arrêter. Hein, c'est se ménager pour pouvoir vivre plus longtemps. Oh non, hein, 64 ans, c'est vieux. 62 ans, écoutez. Je ne vais pas vous dire combien j'ai, mais j'ai plus que 64. Hein. Et, vous savez, Démas, en entretenant des petites pensées, rien de méchant certainement, des choses gentilles. Hein, il n'a pas pensé à comment je vais devenir un voleur, un brigand, je vais tuer du monde et tout ça. Non, non. Amour pour le siècle présent. Quelque jouissance, quelque plaisir. Et il dit, m'a abandonné. Il dit, je suis là en prison tout seul, il n'y a que Luc avec moi. Viens vite, Timothée. Oui, mais ça arrive aussi hein, dans les églises. On a des gens qui tout d'un coup, ils disparaissent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu de la négligence et ça ne se voit pas tout de suite. La forme, elle se maintient, mais c'est de l'intérieur que ça se détériore. Et là, Néhémie, il a fermé les portes. Et pendant un temps, il y avait les marchands qui se sont installés devant les portes pendant la nuit en attendant que les portes se rouvrent après le sabbat. Et il est sorti, il leur a dit, je veux vous camper même pas ici. Partez, je veux plus vous voir, sinon je mettrai la main sur vous. Je crois qu'il avait une réputation, ils ont compris. Il dit, même pas camper devant la porte. Je veux écarter maximum, mettre de l'espace. Vous savez, moi, je suis un peu casse-cou, et je le suis encore, parce que le petit garçon est encore là. Et j'aime bien marcher sur le bord des falaises. Il y a un plaisir à faire ça. Vous savez, le risque de marcher le bord d'une falaise, c'est que pour un quelque chose, un trébuche, et vous savez où on va. Tandis que si on marche à 2 mètres de la falaise, bon, la vue n'est pas la même, c'est sûr, hein, mais au moins, si on tombe, on risque rien. Mais c'est vrai, il y a des gens qui, la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vivent comme ça aussi. Hein, à la limite. Et après, il suffit des moindres choses. Ils ont dit, je vais négocier, je vais avoir un peu du monde, un peu de l'Église, et je vais trouver un bon équilibre là. Vous savez, ça ne va pas durer longtemps. On ne peut pas flirter avec le monde et rester fidèle au Seigneur. Et tout ça, encore une fois, négligence. Ce n'est pas des intentions, ce n'est pas des projets, c'est de la négligence. Il faut rester vigilant. J'arrive au dernier point. Il nous parle de la famille. Et là, qu'est-ce que remarque Néhémie au verset 23? Il dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient pas la langue de tel ou tel peuple. Et regardez comment il a réagi, lui. Comment il a vu le problème. C'était grave. Je leur fis des réprimandes, je les maudis, j'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux. Et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Salomon qui était si sage, que Dieu a choisi et Dieu l'a choisi pour construire ce beau temple à Jérusalem. Mais il avait un faible pour les jolies filles. Et puis aussi, ça marchait pour des alliances de paix avec les peuples. Donne-moi ta fille, comme ça on se dit, on fera pas la guerre. Et puis donne-moi ta fille, comme ça on fera pas la guerre, on est de la famille. Et puis comme ça, il garantissait, il employait les moyens des hommes pour se donner la paix, plutôt que de compter sur l'intervention de Dieu pour lui accorder la paix. Seule manière d'avoir, il aurait pu avoir la paix, le fait de rester fidèle à Dieu. Vous savez, attention avec qui on flirte. Déjà dans le mariage, hein, vous commencez à fréquenter là où les filles ne connaissent pas le Seigneur, elles ne parlent même pas la langue de l'Église, hein, elles ne connaissent pas le Seigneur. Sur leur bouche, il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas l'adoration. Et vous allez les chercher, vous dites, mais elles sont belles. Bon, elles paraissent belles. Parce que déjà chez eux, entre eux, ils n'arrivent pas à maintenir un mariage. Et vous voulez? Et puis aussi, vous savez, hein, avant de choisir la fille, essayez de la voir un jour quand elle n'a plus maquillée. Parce qu'à la maison, vous savez comment vous la verrez? Les cheveux, pétard. Et les couleurs, bon, chez vous, c'est pas ça. Chez nous, les blancs, c'est très blanc. Chez certains d'entre vous, c'est autrement. Mais, vous savez, c'est... Hein? Et puis, la beauté que vous avez vue aujourd'hui, qui vous a attiré, elle ne sera pas là demain. Hein? Moi, j'ai une épouse qui est restée belle. Ça, écoutez, c'est grâce de Dieu. Mais, vous savez, mais il n'y a pas que ça. Il y a ses fréquentations, il y a ses amis. Ah oui, ben, avoir lui comme ami, parce que lui... Il a accès à des ceci, cela. Oh, commence à flirter. Et vous savez, très vite, c'est parti. Et Néhémie parle de ce qui est arrivé là comme un crime. Il n'a pas dit, c'est des petites erreurs de la vie et tout ça. Non, non, c'est un crime. Vous ne savez pas combien de personnes je vois. Hein, il tombe amoureux. On peut tomber amoureux de n'importe qui. Il y en a qui tombent amoureux d'un petit chien. Alors, vous savez, c'est facile. C'est pas la question. Si on ne doit jamais perdre la tête et dire, mais comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont fidèles dans les petites choses le seront dans les... Est-ce que ce partenaire auquel je pense, est-ce qu'il est déjà fidèle au Seigneur? S'il n'est pas fidèle là, il ne sera pas fidèle quand il sera marié à moi. Hein. Et après, quand le couple est créé, il faut l'entretenir. Combien de chrétiens je rencontre qui sont sauvés, mais qui vivent avec les valeurs du monde? Vous savez, c'est un jeune couple dans l'église, il dit, moi je vais être marié à l'église. Je vais m'être marié devant le Seigneur. Alors, je vais me marier sous les lois du Seigneur. C'est beau, hein? Et puis, après, on les retrouve 4-5 ans plus tard. Il ne va pas consulter le Seigneur, il va consulter un avocat. Parce qu'il veut passer à une autre loi qui lui permettra de dissoudre le couple. Ah, mais je croyais que tu voulais être sous la loi du Seigneur, sous le regard du Seigneur. Et puis là, tout d'un coup, tu as changé de régime. Vous savez, ça arrive tout le temps. On est confronté à cela. Mais parce que les gens arrivent à maintenir l'extérieur, donc on ne voit pas venir, et tout d'un coup, il vient et dit, écoutez, on a contacté un avocat, et puis on va prendre un divorce. Quoi? C'est maintenant que tu en parles. Préserver nos foyers, nos maisons, nos relations, notre vie. Après tout, si ça ne plaît pas au Seigneur, j'en veux pas. Même s'il est belle. Parce que où sont mes yeux? Sur le Seigneur ou sur elle? Le Seigneur est beau. Le Seigneur a tout fait pour moi. Comment est-ce que je peux l'oublier? En terminant, je vous rappelle le premier commandement que Dieu a donné à Moïse, c'était quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu de ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu. C'est-à-dire, jamais. Je suis le seul. Et n'y pense même pas à avoir un autre. Je suis suffisant. Je n'ai pas besoin de gens qui soient ajoutés. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il dit, mais moi, je crois pas en aucun autre Dieu. Moi, je crois que j'ai le Dieu de la Bible. Alors, moi, c'est Dieu. Alors, je vous rappelle ce que Jésus a dit. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour un autre. De toute ton âme. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est tout ça, c'est Dieu qui contrôle. De toute ta pensée, les choses qui me préoccupent quand je suis sur le lit, il n'y a personne qui sait à quoi je pense, est-ce que je pense quand même au Seigneur? Et de toute ta force, avec tous les moyens que tu as, sans te comparer à quelqu'un d'autre. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et vous savez, et puis si vous êtes, j'ai parlé de couple, et si vous êtes dans une situation où il y en a un qui est au Seigneur, l'un qui l'est pas, ben essayons de rassembler ça, rattraper les choses pour le Seigneur, pour pouvoir vivre fidèlement pour le Seigneur. Vous dites, mais j'ai fait une gaffe. Je sais, c'est les gaffes dans ce domaine-là. C'est irréversible. Ben alors, après, vous faites un accident avec votre voiture, vous la jetez, non? Vous essayez de la rattraper, de la restaurer et de la remettre. Nos gaffes, là, on demande au Seigneur et on restaure, et on rétablit. C'est jamais terminé. Le Seigneur peut intervenir, prendre n'importe quelle situation et la transformer à sa gloire. Il n'y a aucun d'entre nous qui voudrait que quelqu'un puisse voir le film de notre passé. Mais oh, combien je voudrais que Dieu puisse être celui qui dirige le film de ma vie future est service pour Dieu. Et là où je suis. Et nous sommes là pour nous encourager mutuellement. Nous encourager mutuellement. Et si je vois un frère ou une sœur qui commence à faiblir, parce qu'on passe tous par des moments de faiblesse. Il y a des moments, il y a des jours où on est, ça ne va pas. Même Monsieur Barnes, même Madame Barnes, vous vous rendez compte? Mais, vous savez, on est là pour s'encourager, pour se soutenir, pour prier les uns pour les autres. Et si je ne suis pas dans l'Église, je ne sais pas comment vont les autres. Mais ces rencontres fraternelles sont là pour que nous puissions échanger et nous soutenir, chacun dans sa faiblesse. Parce que nous ne voulons pas être négligents. Le temple est là, les murailles sont là, mais les portes ne sont pas fermées. Veillons et que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Elle est toujours si riche, si pratique, si utile. Et Seigneur, il n'y a aucun moment où nous n'avons pas besoin de l'entendre. Et Seigneur, ce matin, peut-être que par ton esprit, tu as déjà parlé à l'un ou l'autre. Et tu lui as montré des choses, tu as montré du doigt quelque chose qui est dans sa vie, qui ne devrait pas l'être, et qui ne l'était pas, duquel il avait été sauvé, et puis il s'est retourné. Des Tobija qui se sont installés dans une chambre de sa vie. Des négligences par rapport au culte. Peut-être l'œil qui a commencé à regarder ailleurs qu'à l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous voulons garder les yeux sur toi. Toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par toi que nous pourrons aller au Père. Seigneur, tu connais chaque cœur, tu connais même les prières qui sont en train de monter maintenant. Et Seigneur, qu'on soit rapide comme Néhémie, de régler ces choses immédiatement, de jeter dehors ce qui ne convient pas, et de consacrer à nouveau, et de reprendre notre engagement premier. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.